Nous, on reçoit donc Alexandra Templier, qui est une artiste dont la voix et la réflexion jettent des ponts entre les disciplines. Ah, ben vous devinez donc que c'est une artiste pluridisciplinaire. Elle est avec nous pour discuter de la semaine du 9 et de sa création « Chant 2, le murmure du vivant ». C'est une œuvre qui explore notre rapport à la biologie et à l'existence à travers une lentille pluridisciplinaire. Bonjour Alexandra.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben, c'est un plaisir. Alors pour commencer, la semaine du 9, c'est un événement qui met à l'avant l'innovation et la création actuelle. Comment ce spectacle, le Chant 2, le murmure du vivant, s'inscrit-il dans cette volonté de renouvellement artistique?
Bien, ce spectacle s'est développé dans un programme qui s'appelle le Pôle Relève du Vivier. Mm-hmm. Donc le Vivier soutient la création de la relève pour la musique contemporaine et musique de création. Mm-hmm. Puis le projet, bien, c'est un projet profondément pluridisciplinaire dans lequel il y a musique, danse et art visuel. Mm-hmm. Tout ça crée un écosystème complètement interdépendant, en fait.
Donc, c'est le genre de spectacle qu'on voit à la semaine du 9, là?
Ben, je sais pas s'il y en a beaucoup des comme ça à la semaine du 9, mais il y a celui-là,
toujours,
en tout cas.
C'est souvent des spectacles qui sont des nouveaux spectacles, des nouvelles explorations, si je comprends.
Oui.
Tout à fait. Alors, parlons de ce parcours qui est le tien, qui est marqué par une double expertise en musique et en sciences. Là, on vient de comprendre pourquoi on parle de biologie, si je comprends bien.
Science humaine. Philosophie.
OK, philosophie. Ouais, philosophie. J'avais mal lu. Est-ce que le projet, donc, est né de ce désir de réconcilier ces deux univers qui, parfois, on dit que c'est opposé, hein?
Ma foi, toute ma démarche est fondée sur ces deux éléments, c'est-à-dire le soutien théorique, mm-hmm, et l'exploration sensible que permet l'art, en fait. Je suis convaincue que l'art est une science. C'est le lieu d'une connaissance, de même que, mettons, la neuroscience s'intéresse ou nous éclaire sur un sujet très précis, la biologie, la géographie, l'art aussi. L'art a son sujet, qui est en l'occurrence l'humain et le sens de l'existence. Et donc, c'est le lieu où on peut avoir accès à ces réflexions-là et à cette connaissance-là. Pour moi, c'est une science humaine.
J'ai l'impression que c'est un travail de longue haleine, ce spectacle.
5 ans de travail.
5 ans de travail, hein.
Puis pour moi, c'est un très, très gros accomplissement aussi d'une vingtaine d'années de recherche plus globale, ouais. J'ai l'impression de concentrer vraiment le fruit de 20 ans de recherche.
Donc, c'est vraiment ton bébé, là, qui...
Ouais.
Alors, qu'est-ce que murmure, dans le titre, mm-hmm, murmure représente quoi concrètement, là, dans ce processus de composition?
C'est ça. Moi, toute ma démarche est vraiment nourrie par cette question de l'existence. Quel est le sens de notre existence humaine? Quel est le rôle de l'humain dans l'écosystème du vivant? Donc, chaque spectacle, en fait, part toujours d'un propos, donc une porte d'entrée différente. Celui-là, en l'occurrence, c'est le silence. Je me suis intéressée à la question du silence. Je suis partie du constat que quand on dit silence, spontanément, on associe ça à absence de son. Mmh. Sauf qu'en réalité, il n'y a absolument rien de tel dans la vie. À partir du moment où il y a du vivant, il y a du mouvement, donc il y a du son. Donc, ce que ça nous amène à constater, c'est qu'en fait, le silence, c'est une posture, c'est un état de présence. C'est une capacité à prêter attention à écouter, en fait, plus largement que notre écoute quotidienne, qui va souvent très vite, qui est souvent très conceptuelle aussi. On met des concepts sur les choses qu'on perçoit, puis ça s'arrête là. Donc, toute l'expérience qu'on propose, c'est comment arriver à écouter autrement pour peut-être penser autrement, pour sortir, dans le fond, du champ assez restreint de nos perceptions habituelles.
Bon, je sais que c'est un travail de 20 ans de création, hein, tout et partout, mais il me semble que je t'entends et je me dis, mais ça s'applique à notre monde actuel, il me semble qu'on aurait besoin de ces moments de silence.
Mais c'est un retour qu'on a beaucoup, on a déjà fait 2 représentations, plus une générale publique, puis les gens ressortent vraiment en nous remerciant de nous d'offrir un tel espace, en fait. Ils disent que, effectivement, c'est très rare dans notre quotidien. Puis ça permet d'accéder à autre chose, ça permet de renouer avec ce sentiment océanique. Puis l'expression n'est pas de moi, mais je trouve ça très beau, ce sentiment océanique de faire partie du vivant, de se rappeler qu'on fait partie d'un tout qui nous dépasse et dont on dépend, mm-hmm, et auquel on a beaucoup de choses à apporter aussi.
Je disais souvent, quand je travaille sur les préparations de plein de trucs comme cette émission, parfois je suis seul à la maison et je me tais. Et parce que quand on ne parle pas, on réfléchit. J'ai l'impression que le silence, ça nous aide à mieux concevoir ou à mieux comprendre les choses.
Oui, puis je pense que au-delà de réfléchir, ça permet de penser.
De penser, voilà.
Donc c'est encore plus profond. Ouais. C'est vraiment ce moment où le sensible et l'intellect se font un, en fait, où on a accès à des pensées qui sont bien plus vastes que la réflexion. Oui, absolument.
Puis on ne fait pas ça souvent à la radio. Hein? Je le dis tout de suite, c'est rare qu'on a des moments de silence parce que tout le monde panique quand il y a un moment de silence à la radio. Mais moi, j'estime que dans ma vie, j'ai besoin de ces moments-là, ne serait-ce que pour penser. Mm-hmm. Et est-ce que me poser des questions sur ce que je fais, est-ce que je fais au bon endroit ou pas. Le spectacle est décrit comme une expérience immersive. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça?
C'est une expérience immersive par plusieurs aspects. D'abord, parce que le public est avec nous dans l'espace. Il n'y a pas de distinction entre la scène et la salle. Immersif aussi parce que tout le monde est dans le son et dans l'expérience physique. C'est donc un spectacle dans lequel il y a notamment 4 danseuses. Donc, il y a vraiment comme une posture physique très particulière qui fait que par neurones miroirs, par sympathie, le corps est impliqué, le corps des spectateurs est impliqué. On n'est pas là juste comme un spectateur de quelque chose qui se passe devant nous, mais on est vraiment sollicité de façon sensible, en fait, à vivre une expérience, à sortir transformé, en fait.
On dit aussi qu'il y a une dimension très... Là, parce que je me fie, je n'ai pas vu le spectacle, je me fie à ce que j'ai lu sur les communiqués et les descriptions. J'ai lu, donc, qu'il y a une dimension très philosophique dans le travail sur la voix. Comment est-ce qu'on aborde ça, le rendre audible l'invisible, l'infiniment petit à travers, donc le chant, je comprends bien.
Le chant, c'est la voix, c'est mon instrument principal, c'est ma grande obsession. Je pense que c'est le lieu le plus transparent de ce qu'est l'être humain. Il y a absolument toutes les dimensions humaines dans la voix. C'est à la fois physique, très anatomique, énergétique, émotionnel, politique, parce qu'il y a aussi le discours, l'intellect. Et il y a le mystère aussi dans la voix. Donc, il y a aussi la dimension spirituelle et métaphysique qui, pour moi, est fondamentale. Donc, explorer l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais c'est tout un travail de microtonalité, par exemple, d'aller chercher des sons que l'oreille occidentale n'est pas habituée d'entendre. Mettons, l'oreille occidentale est plus habituée, si on regarde un piano, à des écarts de notes entre le plus petit, c'est la note noire avec la note blanche, un demi-ton. Puis dans d'autres cultures, dans ce demi-ton, il peut y avoir jusqu'à 12 notes, peut-être même davantage. Donc c'est aller chercher ces toutes petites subtilités-là, puis oser aussi le très grand, le fortissimo, voyager du pianissimo au fortissimo, avec toutes les nuances qui se passent entre les deux. Puis moi, mon bagage est teinté de beaucoup d'influences. J'ai commencé en chant classique occidental, ensuite flamenco, ensuite chant classique indien. Puis j'ai une passion pour l'improvisation qui me permet de mélanger tout ça, donc... C'est vraiment transversal, c'est sans frontières, là.
Flamenco, alors comment on l'utilise sur scène? Parce que je crois que c'est dans le spectacle, là.
C'est ce qu'il y a le moins dans le spectacle, contrairement au spectacle précédent.
Oui.
Mais ça m'habite, ça a été des années pour moi d'immersion, le flamenco, fait que ça continue à être très présent. Je pense que le flamenco, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est l'utilisation d'une voix proche du cri, ou de la voix parlée, en tout cas. Puis une certaine, pas rudesse, mais une authenticité peut-être dans la voix, qui contrastait beaucoup avec mon bagage de chant classique occidental d'avant, en fait.
J'ai l'impression que les gens qui vont aller voir ce spectacle vont sortir, est-ce que je pourrais dire remuer peut-être?
Oui, je pense que c'est ça qu'on constate, mais remuer dans le bon sens.
Dans le bon sens, oui. Remuer, ça peut être bon. Hein,
absolument.
Parce que quand on fait de la cuisine, il faut remuer.
Absolument.
Et c'est une bonne chose.
Oui, les gens sortent transformés. Il y en a qui disent que ça les a considérablement apaisés, d'autres que ça leur a donné de l'espoir. Il y en a qui nous ont parlé de soins, de médecine aussi.
Ah oui.
À quel point il y avait tellement de soins dans le spectacle que... Ils avaient vraiment ressenti qu'il y avait des choses qui avaient bougé à l'intérieur d'eux, qui s'étaient comme replacées. C'est très puissant comme expérience. C'est vraiment magnifique les retours qu'on reçoit. C'est confrontant au début, c'est sûr. On n'est pas habitué à la lenteur et au silence. Donc les premières minutes peuvent être très déroutantes. Mais ce que les gens disent, c'est que même s'ils sont déroutés au début, il y a quelque chose qui finit par lâcher, puis ça devient confortable. Et c'est un très beau voyage collectif.
L'art qui ne dérange pas, c'est pas aussi intéressant que l'art qui dérange. Rappelons, c'est quelle date les représentations de ce spectacle en particulier?
Alors, il en reste une le 3 mars.
Le 3 mars,
donc demain, à 19h,
oui.
À l'église Saint-Hilda dans Rosemont. le QG du Vivier. Tout est affiché complet depuis plusieurs semaines, mais il y a toujours c'est des petits jamais. Désistements. Ouais, absolument, ça vaut la peine.
On attend, tout à fait. Et la semaine du 9, donc, c'est un festival de musique et de création fondé par Le Vivier à Montréal. Et donc, c'est en cours présentement. Alors, Alexandra Templier, merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Merci.